Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, allez, on se recharge de bonne humeur et de positivité. C'est normal, c'est le début de la semaine. Une femme d'exception aujourd'hui qui ne peut que nous transmettre toutes ces bonnes ondes, malgré les étapes de la vie pas toujours évidentes.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mahassel Gharmoul, bonjour.
Bonjour, bonjour Yasmine.
Comment ça va? Très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Merci d'être ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé.
Alors, Mahassin, une femme d'aujourd'hui, une femme avec une carrière de vie, on va dire, des étapes de vie, pas toujours faciles, mais que vous avez appris à apprivoiser et à en faire votre ADN d'aujourd'hui, c'est bien ça?
Exactement. J'ai vécu tellement de choses que ça a fait de moi ce que je suis actuellement. J'en ai tiré des leçons. J'en ai fait une force que j'essaie de partager avec tout le monde autour de moi.
Mais Mahassin, vous êtes encore très jeune.
Ça dépend. Bah écoutez, je boucle mes 40 ans dans peu de temps.
Ok, alors vous êtes encore très jeune et pourtant vous avez vécu beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez vécu, Mahassin, et vous êtes encore jeune?
Alors je vous dis, je vous raconte l'histoire depuis le début, depuis 2008. Quelques mois après mon mariage, j'ai découvert que j'avais un carcinome in situ épidermoïde de grade 3, c'est-à-dire un cancer de col de l'utérus, si je peux le dire de cette façon-là, enfin, de façon plus facile, qui a été diagnostiqué. Alhamdoulilah, il a été découvert à une phase vraiment propice. C'était vraiment la dernière phase avant qu'il ne se propage pour toucher d'autres organes.
Ok. Alors, Bletty, on s'arrête déjà sur ce point, si vous le permettez, parce qu'on parle toujours de l'importance du diagnostic précoce.
Exactement.
Vous, ça a été... Qu'est-ce qui vous a poussé à aller faire ce frottis, à aller consulter?
Alors, quelques mois après mon mariage, j'avais beaucoup de cystites. Et je comprenais pas c'était quoi la cause. C'est vrai que c'était pas lié à mon cancer, mais c'était ça. On m'avait dit, allez, toi, tu viens de te marier, va voir une gynécologue. Donc, je suis allée faire le frottis et c'était là où ça a été découvert. J'avais à l'époque 24-25 ans. C'était vraiment très précoce et c'était le moment opportun pour pouvoir le découvrir parce que si j'avais patienté un an ou deux ans par la suite, on allait tomber dans un cas beaucoup plus grave que ce que j'avais vécu.
Alors justement, un cancer à 24 ans, dans une zone liée à l'intimité, quelques temps après votre mariage,
Exactement.
Ça a eu quel impact sur vous?
Alors déjà, quand on m'avait diagnostiqué, on m'avait dit que il lui fallait 10 ans pour arriver à ce stade. Moi, je ne comprenais pas. On nous a toujours expliqué que le papillomavirus, c'est une maladie sexuellement transmissible.
Absolument.
Et j'avais pas compris. Hein. Si on revenait 10 ans en arrière, j'avais 14-15 ans, j'étais encore petite, une adolescente, on va dire, pas active du tout. Donc, je comprenais pas. Et ce n'est qu'en faisant des recherches, puisque j'étais curieuse de savoir comment ça s'est passé, que j'ai découvert que ça peut être lié à des affections qui ont été maltraitées, ça peut être lié à beaucoup de choses, qui sont aussi dangereuses en même temps que pour une personne sexuellement active à ce moment-là. J'avais pas compris. Au jour d'aujourd'hui, je suis toujours porteuse du papillomavirus. Je vis avec au jour le jour. Je le porte en moi.
Comme beaucoup de femmes d'ailleurs.
Exactement. Il faut juste le savoir. Quand on ne le sait pas, c'est ce qui est grave. Mais quand on le sait et on vit avec et on l'apprivoise quelque part, on sait comment se comporter, on fait les tests.
Pour le papillomavirus.
Pour le papillomavirus. Et éventuellement faire des frottis pour voir l'évolution des choses. Hein. Au jour d'aujourd'hui, tous les 18 mois, j'enlève un polype. Je sais que c'est dû, entre autres, à ça aussi. Mais il faut le savoir. Tout simplement, il faut le savoir. Il faut être régulier par rapport au contrôle.
À sa santé.
Il faut être très vigilant.
Alors, Mahassine, justement, retour à cet âge-là, 2008, 24-25 ans, juste après votre mariage, ça a eu quel impact sur votre vie de femme, votre vie de couple?
Sur ma vie de couple, non, pas du tout. Alhamdoulilah, mon mari a été là pour moi, il m'avait soutenue, il n'avait pas changé, il avait changé, mais positivement, était beaucoup plus attentionné. Il m'a accompagnée pendant le processus de guérison, pendant le processus de traitement.
Il y a eu la chimio aussi ?
Non, pas du tout, heureusement, non.
Ok.
On avait fait une conisation qui est une ablation du col de l'utérus, c'est-à-dire enlever radicalement cette partie qui était atteinte.
Ça voulait dire ne pas avoir d'enfant, c'est ça?
C'était parmi les risques, c'était du 50-50. Tout le monde lui avait dit, écoute, c'est votre première année de mariage, vous êtes encore jeune, je peux refaire ta vie. Et lui, il voulait rien entendre, il voulait rien savoir. Il était là, il m'a accompagnée. Il m'avait dit, écoute, avoir des enfants ou ne pas les avoir, l'important pour moi, c'est que tu sois en bonne santé. Et c'était au même cas que mes parents, Raïchit et Oblia, sans leur soutien et sans leur présence à mes côtés, je ne crois pas que j'allais pouvoir dépasser cette crise, on va dire, avec la force de caractère que j'ai pu acquérir par la suite. Parce que, ma foi, avant 2008, je n'étais pas comme ça. Hein. C'est vraiment cette force de caractère et cette positivité, elle est venue bien après la maladie.
Mais alors, justement, quand vous dites cette force de caractère, ça veut dire vous avez appris quoi de la maladie? Et si vous permettez, si on peut revenir aussi sur le discours des gens qui disaient à votre mari à l'époque, vous venez de vous marier, vous êtes encore jeune, tu peux encore refaire ta vie si elle ne peut pas te donner d'enfant. C'est venu de personnes proches?
Ouais. De personnes proches, de ses collègues au travail, parce qu'il devait déposer le dossier. Parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas et je n'avais aucune couverture médicale. Donc, lui. Enfin, je suivais sa couverture médicale à lui. Oui. Hein, de toute catégorie de personnes, ses collègues au travail, sa famille aussi. Mais bon, Dieu a fait qu'on a pu avoir des enfants par la suite.
Oui, c'est vrai.
J'ai une petite fille de 10 ans maintenant.
Tabarkallah. Justement, ça a été une grossesse. Ça complique les choses quand on n'a pas de col de l'utérus.
Alors, pour tomber enceintement, mais pour la garder à l'intérieur au chaud, très difficile. J'ai dû rester alitée pendant 4 mois, du mois de février jusqu'au début mai, pour pouvoir accoucher. C'était très difficile, très pénible. D'ailleurs, je n'ai pas refait l'expérience.
Ouais.
Je n'en garde pas de bons souvenirs. Mais oui, c'était très pénible entre le suivi quotidien avec le médecin. N'importe quel signe, il fallait le contacter, les traitements, les injections pour maturer les poumons, parce qu'à tout moment je risquais d'accoucher en prématuré. C'était très pénible.
Pénible moralement, j'imagine.
Moralement et physiquement, les deux à la fois.
Alors justement, cette force de caractère dont vous parliez il y a quelques instants, qu'est-ce qui a changé en vous, Mahassine?
Tout a changé en moi. J'explique ça, je leur dis que c'est quand on touche le fond une fois, on commence à relativiser, à apprendre le bon côté des choses et à voir tout au premier degré. On ne cherche plus à comprendre le pourquoi du comment, on ne cherche plus à, à se creuser la tête pour savoir qu'est-ce qui va y arriver dans 6 mois, qu'est-ce qui va y arriver dans 1 an. On vit le jour pleinement. Hein. Chaque minute compte. C'est comme si on était en sursis de survie. Et il faut profiter de cette vie en long et en large, vraiment littéralement. Je me soucie plus de lire entre les lignes, de qu'est-ce qu'il veut dire lui, pourquoi il m'a parlé de cette façon, qu'est-ce qui va se passer. Pas du tout. Je vis l'instant. J'essaie de m'instruire au maximum. Tous les 2-3 ans, je pars faire un master ou je pars faire un certificat pour pouvoir m'instruire. Ça change aussi et ça crée de nouveaux contacts. Tout simplement vivre à 100 à l'heure parce qu'on a toute une vie de joie. Pourquoi la gaspiller en pensant à des choses négatives?
Absolument. Alors, justement, là, vous l'avez dit, vous êtes à la veille de vos 40 ans. 40 ans, c'est aussi un âge où, en général, quand on n'a pas eu de soucis de santé avant, c'est l'âge où on commence à recommander à une femme une mammographie, un frottis régulier, etc. Pourquoi ? Parce que les chances de développer ce genre de maladie, elles sont un peu plus importantes, passé le cap de la quarantaine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, Mahassine ?
Non. J'avais tellement vécu ça prématurément que non. Je fais très attention à ma santé, je fais très attention à mon hygiène de vie, à ce que je mange, à comment je me comporte. Et je fais tous mes suivis, tous mes contrôles, tous mes check-ups, je les fais annuellement. Donc je me dis que rien ne pourra venir à 40 ans ou avant 40 ans. À 40 ans, c'est un âge charnière, on va dire, surtout pour une femme. Mais si on est régulier et on est assidu par rapport à ça, je ne crois pas que ça va changer quelque chose.
Oui, pas de crainte dans ce sens?
Non, pas de crainte dans ce sens.
Alors justement, votre fille, est-ce qu'elle connaît son histoire?
Oui. Elle la connaît. Enfin, elle l'avait découvert récemment lors d'un live. C'est là où elle avait découvert toute l'histoire. Et elle avait commencé à me poser des questions. Et c'est là où je lui ai raconté, bien évidemment, sans rentrer dans les détails des détails, mais c'est là où je lui ai expliqué comment ça s'est passé. Je lui ai expliqué que c'était difficile et qu'il faut prendre soin de sa santé. Et que toute personne n'est pas à l'abri de vivre une situation pareille. C'est pas que ça m'est arrivé, que ça pourra arriver à tout le monde, mais il faut faire attention. Il faut faire attention à sa santé, parce qu'on a que ça dans la vie finalement.
Alors, vous l'avez dit en début de rencontre, il y a eu tellement de choses. Ça veut dire que ce cancer du col de l'utérus, eh bien, c'était pas que ça.
Non,
il
n'y
a pas
ça.
Eu que ça, je veux dire.
Non, il n'y a pas eu que ça. Non, il n'y a pas eu, que ça. Pour ne pas rester dans le négatif, il y avait quelques petits soucis de santé par-ci et par là. D'ailleurs, j'en parle très souvent. Je dis que il faut qu'on fasse attention aux petits signaux de notre corps. Il ne faut pas tout mettre sur le dos du stress. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la dépression. Des fois, ce n'est pas ça, parce que moi, j'ai vécu ça et on me disait que je déprimais, je pleurais beaucoup, j'avais pris du poids et on me disait tout le temps que c'était de la dépression, que j'étais en surmenage et tout. Et finalement, j'ai découvert que c'était une hypothyroïdie et que ce n'était ni l'un ni l'autre. Il fallait que j'aille faire mes analyses pour savoir que c'était de l'hypothyroïdie et que mes pleurs, mes larmes étaient hormonalement justifiées, on va dire, quelque part, et que ce n'était pas de la dépression.
Alors justement, quand on est femme active aussi, quand on n'a pas le temps de se laisser aller à justement, quand on va mal, quand on se réveille le matin, ben, il faut préparer les enfants, je parle de ce cas de figure-là, les enfants pour aller à l'école, il faut se rendre au boulot aussi. D'ailleurs, on fait l'interview à partir de votre lieu de travail justement ce matin.
Exactement.
ça rajoute de la pression supplémentaire. C'est-à-dire, je vais mal, je ne suis pas bien, je pleure, je suis fatiguée, mais je dois continuer.
Oui, oui. Et c'est pourquoi aussi, il faut se donner le temps de penser à soi. Je le répète à chaque fois, il ne faut pas, avoir peur d'être égoïste. Égoïste, ce n'est pas méchant, c'est être égocentrique qui est méchant. Mais quand on se consacre du temps, on consacre du temps à nous, à notre humble personne, c'est tout notre écosystème autour de nous qui se porte bien. Quand on fait une to-do list, il ne faut pas la remplir à 100%, il ne faut pas remplir toute la journée. Il faut laisser, enfin, il faut faire une to-do list sur 70% de notre temps et laisser 30% pour nous, enfin 10% pour les aléas et pour les urgences qui vont venir et qu'on va devoir régler à l'instant T, et 20% pour nous en tant que personne, se faire du bien, ne serait-ce que lire un bouquin, ça fait du bien, regarder une série, quelle que soit la série, pendant 20 ou 30 minutes par jour. Ça nous fait énormément de bien, chose que j'arrivais pas à faire auparavant. Là, je le fais avec un grand plaisir.
Pourquoi justement ?
Parce qu'il y a tellement, on est pris dans ce tourbillon de la vie de femmes actives, se lever le matin, se faire préparer les enfants, se faire belle pour partir au travail, rentrer, préparer le dîner, faire les devoirs, mettre tout le monde au lit. Et après, on est esquinté, on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit.
Absolument.
Les petits gestes de la vie, ne serait-ce que mettre de la crème sur nos mains, on n'a plus le temps de faire ça. Moi, je me rappelle, je faisais ça au bureau quand je rentrais. C'est là où je tente le matin, parce que je rentre très tôt au bureau, parce que je dépose ma fille à l'école. Donc, c'est là, 5 minutes le matin, où je prends la peine de mettre de la crème sur mes mains, de souffler un peu. Mais c'est malsain.
Absolument. C'est malsain pour soi, en fait.
Exactement, ben pour soi, pour nous-mêmes, parce qu'on a toute la vie. C'est notre vie, elle est faite de cette façon-là, comme la vie de nos mamans. On les a vues, elles travaillaient aussi, et elles étaient prises dans ce tourbillon de la vie. Il faut essayer de changer quelque chose, trouver un cercle d'amis qui peut vous tirer vers le haut et qui va vous permettre de faire un plan, ne serait-ce que faire un pique-nique entre amis, sans enfants, quelque part, au bord de la plage. Ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, mais qui nous fait du bien. On revient avec beaucoup d'énergie positive et on revient avec beaucoup de force pour pouvoir redémarrer encore une fois. Et il faut se permettre de se dire, allez, je vais tout envoyer balader et je vais me permettre 30 minutes ou 1 heure ou 1h30 pour moi. Ça dépend de chaque personne et de comment elle peut gérer son temps libre. Mais avoir un moment pour soi, c'est la meilleure chose pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir arriver à ce que nous souhaitons.
Alors, beaucoup de femmes qui nous écoutent maintenant ont envie justement de sauter ce pas, de pouvoir s'offrir cet espace pour elles-mêmes, même si ce n'est pas tous les jours, mais ne serait-ce que quelques fois par semaine. Déléguer, est-ce que ça a aussi été une de vos clés, Mahassine ?
C'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est de pouvoir déléguer et de savoir déléguer. Parce que si on délègue une tâche et on suit la personne qui la réalise, et on lui dit que c'est pas bien fait, ça sert à rien du tout, ça nous rajoute du stress. Moi, je dis qu'une femme, elle doit rester dans son rôle de femme.
C'est quoi le rôle de la femme pour vous, Mahassine?
Par exemple, une femme, elle n'est pas obligée, et je dis ça et ça n'engage que moi, hein, elle n'est pas obligée de partir faire les courses au supermarché. Si elle arrive à déléguer cette tâche ou que le mari puisse faire cette tâche, quel que soit ce qu'il va ramener, bon ou moyen, exactement. C'est déjà ça, ça va lui donner 1 heure à deux heures de repos rien que pour elle. Par exemple, le petit-déj le matin. Si le mari puisse avoir la gentillesse de s'occuper du petit-déj le matin, ça va lui permettre de réguler son rythme de réveil le matin et qu'elle puisse au moins se concentrer sur autre chose. Et il est pour pas mal de petits détails dans la journée qu'on fait, on les fait instinctivement et on les fait sans réfléchir. Mais c'est quand une petite tâche par-ci, une petite tâche par-là, c'est que notre programme il est saturé et on n'a plus de temps ni pour nous ni pour donner de l'amour et de l'affection à nos enfants.
Absolument. Donc, alors, déléguer aussi pour les enfants, c'est aussi par rapport aux devoirs, par rapport à ces choses-là. Vous arrivez à le faire?
Alors, par rapport aux devoirs, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Une maman, alors, n'est pas obligée de faire les devoirs avec ses enfants. Je m'explique pour qu'on ne comprenne pas ma phrase autrement. Alors, moi, le but, c'est que le devoir soit fait. Correctement ou pas, ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle de l'institutrice ou de l'instituteur en classe. Si moi, je prends de mon temps 30 ou 1 heure, 30 minutes ou 1 heure pour faire le devoir, pour expliquer la leçon et expliquer les consignes à ma fille, c'est moi qui me substitue à l'institutrice. Alors, la maîtresse, elle va corriger qui? Les devoirs de qui? De moi, que j'ai fait moi, ou elle va corriger ma fille. Et ça induit les enseignants en erreur. Ils ne connaissent pas le vrai niveau des enfants. Donc, elle ne saura pas s'il faut reprendre une leçon avec ma fille ou s'il faut mettre l'accent sur une consigne ou une autre. Donc, oui, il faut que le devoir soit fait, mais on n'est pas obligé qu'il soit fait correctement.
Ben, je vous rassure, moi aussi, je suis comme ça.
Ah ben, c'est la meilleure chose à faire.
Absolument.
Notre rôle de maman, c'est de nous donner de l'amour, donner de l'affection, donner les règles de la vie, corriger des attitudes quand on voit que ça déborde, mais pas plus que ça. Quand on commence à faire les devoirs, on rentre dans un rapport conflictuel avec nos enfants et ils ont beaucoup plus peur de nous qu'autre chose. Alors, les enfants ne doivent pas avoir peur de leurs parents. Les respecter, les aimer, oui, mais avoir peur, on n'est pas des bourreaux.
En fait, je vais vous raconter aussi mon anecdote par rapport à ça, parce qu'on est entre... C'est aussi mon rôle, aussi à moi, de me raconter dans ce rendez-vous. J'avais commencé avec mon aînée, justement, lorsqu'elle est passée au CP, donc il fallait commencer les devoirs, etc. Et je voyais que je m'énervais. Ça a pris 2 semaines. Après, je me suis dit non, j'ai pas envie d'avoir... je sais pas, je ne suis pas institutrice, je ne suis pas pédagogue, je m'énerve contre elle, alors que peut-être que ce qu'elle est en train de faire et comment elle le fait, c'est ce qu'il faut. Enfin, elle vient de démarrer l'année et c'est pas à moi d'être l'enseignante à la maison. Moi, mon rôle, c'est d'être la maman, de l'aimer,
de
l'orienter, justement, de la supporter, de l'encourager et voilà. Et comme vous avez très bien dit, oui, les devoirs doivent être faits, j'y veille. Mais c'est à elle de les faire. Voilà. Et
Exactement.
Ça apprend vraiment l'autonomie
Exactement.
À l'enfant.
Moi, en CP, j'étais tellement loin avec ma fille qu'elle avait développé des pelades. Je la stressais.
C'est
et
ça.
C'est là où j'ai eu conscience que ce que je faisais n'était pas bien. Parce que j'ai une seule fille, j'essayais de faire zoom sur elle. Elle était sous microscope. Je faisais que ça. Elle était mon premier objectif, il fallait que je le réussisse. Mais quand j'ai vu que la fille, elle n'est pas bien, c'est là où j'avais décidé d'arrêter tout ça. Et on avait mis à l'époque, on le fait toujours d'ailleurs, le système des câlins. Tous les soirs, on a 10 à 15 minutes de câlins au lit. On ne parle pas, on ne dit rien. On se câline toutes les deux et on pense au vide. On essaie de se recharger en énergie positive et ça fait du bien à l'une comme à l'autre.
Comme à l'autre, absolument, absolument. Alors, bon courage, Mahassine. Merci infiniment
beaucoup,
d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous remercie infiniment d'avoir permis à mon humble personne de pouvoir s'exprimer et j'espère que ça va aider des personnes à penser. À se développer et à développer leur confiance en soi et leur amour en soi. et prendre soin de leur propre personne.
Merci infiniment. Merci beaucoup.
Merci.
Belle journée.
À toi. Merci à toi aussi.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.